Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir dans la galerie Mola à l'occasion de la venue à Bordeaux de Camille Laurence, laquelle va nous présenter son dernier roman, Celle que vous croyez, publié chez Gallimard en 2016. Alors je suis pour mille raisons ravi de dialoguer ce soir avec Camille Laurence, même si depuis le mois de septembre, j'ai un peu le sentiment que l'on ne se quitte plus et que l'on dialogue souvent à l'ENS, à Bordeaux, chez Mola. Nous allons faire en sorte de ne pas nous répéter, surtout je vais faire en sorte de ne pas vous poser les mêmes questions que les fois passées. Donc ce soir, nous avons convenu d'organiser notre entretien en deux temps. Dans un premier mouvement, nous allons parler du livre, de son intrigue, des personnages, de ce qui leur arrive. Et puis peut-être, au gré de notre conversation, la fin de notre dialogue sera centrée plutôt sur les questions d'écriture, de forme contemporaine du roman. Peut-être que je serai indiscret, que je vous demanderai votre façon de travailler. Nous verrons. Celle que vous croyez est à mes yeux un bon roman et un beau roman. Il a été écrit, je dirais, pour moi c'est un compliment, avec votre bibliothèque. Je veux dire qu'il est écrit, il n'est pas seulement rédigé, il est écrit dans une intertextualité pleinement assumée, qui est ludique, qui est efficiente, et qui ne vise pas seulement à célébrer une œuvre du passé ou des œuvres du passé, qui ne vise surtout pas, me semble-t-il, à actualiser celle-ci, mais qui cherche à lire ces œuvres du passé de manière féconde, afin qu'elles puissent ensemencer une narration et une écriture d'aujourd'hui, résolument contemporaine. Ce n'est pas la première fois que vous faites cela. Dans votre écriture romanesque, vous prenez non pas appui sur des textes du passé, mais vous faites en sorte que votre univers littéraire dialogue avec les textes qui vous touchent. Pour celle que vous croyez, vous sollicitez notamment Marivaux, Les fausses confidences, mais ce n'est pas le seul texte qui affleure dans ce roman. Vous empruntez le motif à Marivaux, provoquer l'amour par de fausses confidences. Vous empruntez ce motif et vous vous en emparez afin de brosser une peinture de ce que l'on appelle souvent la guerre des sexes. Mais la guerre des sexes dont vous entretenez, c'est celle d'aujourd'hui, ce n'est pas celle du temps de Marivaux. C'est celle des réseaux sociaux. C'est celle qui est alimentée par les ressources que la technologie, que les nouvelles technologies fournissent en manière et en matière de dissimulation, de masque, de manipulation. Si vous m'accordez l'usage d'un terme que l'on emprunte et que j'emprunte à l'anglais, vous évoquez ces fausses confidences à l'ère du fake. Et votre personnage crée un fake, un avatar. Vous avez organisé la narration en trois voies principales, me semble-t-il, qui sont distribuées en deux parties. La première partie, vous l'avez intitulée « Va mourir », c'est l'histoire de Claire Milquant. Et cette histoire est feuilletée en deux versants. Elle est relatée du point de vue du personnage, Claire Milquant, dans son entretien avec le docteur Marc B. Et puis, elle est rapportée et analysée par le médecin qui, lors d'un exercice périlleux destiné à se justifier auprès de ses pairs, commente la manière dont il a accompagné, d'une manière thérapeutique, sa patiente. C'est la première partie, le « va mourir », qui est très fort, une injonction même terrible. Et puis, la seconde partie est titrée « Une histoire personnelle ». Elle se présente sous la forme d'un brouillon de lettres, à Louis O. Et ce personnage, Louis O, est un éditeur. Et la voix qui s'adresse à Louis O entend élucider la façon dont l'auteur a vécu et écrit l'aventure ayant fourni matière à son livre, ce qui attribue à ses pages un statut de métatexte, un statut de poétique en acte du roman. Voilà ce que je peux dire pour les personnes de l'assistance qui n'ont pas encore lu votre livre, afin qu'elles ne soient pas tout à fait perdu. Votre personnage, Claire Milquant, a 48 ans. C'est peut-être l'une de mes collègues. Elle est universitaire, elle enseigne la littérature comparée. Elle a quitté son compagnon. Et, me semble-t-il, le lecteur candide que j'essaie d'être, elle traverse une période de désarroi. Et c'est dans cette période de désarroi qu'elle prend un certain nombre d'initiatives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, mais c'est une femme, effectivement, qui se sent délaissée et qui, pour espionner dans un premier temps son compagnon, qu'elle soupçonne sans doute à juste titre d'être inconstant, crée un faux profil sur Facebook. Alors, un faux profil parce qu'il a refusé de l'accepter comme ami sous sa véritable identité. Et donc, elle, qui a 48 ans, qui est professeure d'université, crée l'identité d'une jeune femme de 24 ans, brune. Elle met la photo d'une jolie brune sur sa page. Et elle s'invente une existence qui n'est pas la sienne, où elle travaille dans l'événementiel et elle est attirée par la photographie, par la chanson française. Et c'est sous cette fausse identité, donc d'une jeune femme qui a la moitié de son âge, qu'elle va séduire le meilleur ami de son ancien compagnon, meilleur ami qui s'appelle Chris, et qui a 36 ans. Donc il a 12 ans de moins qu'elle et il a 12 ans de plus que la jeune femme qu'il croit avec laquelle il croit chatter sur Facebook. Et donc elle tombe amoureuse de lui et il tombe amoureux d'elle, enfin d'elle, de son fake. Et c'est là que la difficulté de trouver une adéquation entre le virtuel, l'imaginaire d'un côté et le réel, la real life, comme on dit sur Internet, cette difficulté devient, au fond, une forme de tragédie pour elle.
Alors, en venant vous retrouver, je me demandais si, indépendamment de cet univers dématérialisé que constitue Internet,
tout à fait, oui.
Votre personnage n'est pas néanmoins un peu comme dans la vie réelle, dans la mesure où elle tombe véritablement amoureuse.
Oui.
Et elle tombe véritablement amoureuse à partir du moment où l'autre, qu'elle gruge, entend son discours et sa parole. Et je me demande si, indépendamment de la virtualité et de l'écran, nos contemporains qui vont sur les réseaux sociaux, qui utilisent les sites Internet, etc., ne sont pas, malgré ce que l'on peut dire, totalement déconnectés du réel, parce que leur parole est partie prenante du réel. Et en quelque sorte, son attitude, enfin, évidemment, en exprimant mon point de vue, je songe à Pascal, « Mets-toi à genoux et prie, et la foi viendra peut-être. » Je suis devant l'écran, je parle d'amour, quelqu'un entend ma parole d'amour et l'amour surgit.
Oui, bah, en ce sens, ça n'est pas très différent de n'importe quelle rencontre dans une époque antérieure, malgré tout. Au sens où on n'est pas complètement non plus dans l'imaginaire. Ce sont des gens qui se rencontrent par le biais des mots. Ils se parlent alors d'abord par écrit, par les messages qu'ils s'adressent. Et puis ensuite, ils se parlent au téléphone. Donc il y a la parole, la voix, les mots qu'ils emploient, les douceurs, les compliments qu'ils peuvent échanger. Je dirais que c'est simplement que ce n'est pas une relation symétrique. Enfin, on ne peut même pas dire qu'elle soit réciproque, mais la naissance de l'amour est totalement imaginaire, mais comme elle l'est toujours dans toutes les relations. Enfin, ça, c'est un point de vue personnel, mais je cite souvent cette phrase d'Antonioni, je la cite d'ailleurs dans le roman, cette phrase d'un cinéaste, ce n'est pas non plus un hasard, hein, qui dit « L'amour, c'est vivre dans l'imagination de quelqu'un ». Et chacun de ces deux personnages vit dans l'imagination de l'autre. même si l'un est plus dupé que l'autre. Mais la différence avec Marivaux, dont vous parliez tout à l'heure, c'est que chez Marivaux, à un moment, on peut tomber le masque et tout va bien, on se reconnaît au sens fort du terme, et on peut, et l'amour peut prospérer, alors que là, il y a d'entrée de jeu quelque chose de tragique dans la mesure où la révélation risque de faire tomber, en faisant tomber le masque, risque de faire tomber aussi l'imaginaire et donc l'amour.
Oui, chez Marivaux, la situation, la condition peut constituer un obstacle à l'amour, mais généralement, les choses finissent heureusement, oui. Puisqu'en tombant le masque, les personnes qui doivent se rapprocher se rapprochent. L'obstacle est surmonté. Or là, à partir du moment où votre personnage se fait passer pour une jeune femme de 24 ans, évidemment, pour elle, tomber le masque, c'est se montrer à cet homme avec lequel elle tisse un lien amoureux, comme non pas cette jeune femme de 24 ans, mais une femme de 48 ans. Et donc sa crainte, c'est évidemment que la révélation tue l'amour.
Oui, sa crainte, c'est celle-ci, mais en même temps, son espoir, c'est peut-être aussi qu'il l'aime malgré tout, elle, puisqu'ils ont parlé, il lui a parlé de sa voix, il lui a dit qu'il aimait ce qu'il comprenait d'elle. Donc elle se dit, il y a quelque chose de mon être malgré tout, même si j'ai menti sur les détails de ma personne, il y a quelque chose de mon être qui l'aime. Et c'est là où, ce qui est à la fois le tragique, le tragique et l'espoir de ce personnage.
Je ne sais pas si vous avez voulu l'affirmer, mais dans le texte, on peut se demander si, pour votre personnage, l'amour, c'est l'amour réciproque, quand l'amour est partagé, c'est s'adresser à l'autre en tant que personne, en tant qu'être, et donc être sensible à sa jeunesse et à sa beauté intérieure. Je sais bien que l'expression que j'emploie, jeunesse et beauté intérieure, ça peut faire kitsch. Aujourd'hui, quand on prononce cela. Mais aimer quelqu'un, c'est regarder la personne telle qu'elle est, et ce n'est pas s'arrêter aux apparences. Et oui. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, la société nous fait revêtir des masques qui sont une apparence, le souci de soi que nous avons, qui n'est pas un réel souci de soi au sens de Foucault, mais de vraiment une tyrannie pour que les uns et les autres, nous puissions être le plus conformes à un idéal social.
Oui, mais c'est toute son aliénation, c'est à cette image sociale que Claire Milquin est aliénée. Au sens où elle pense que la beauté et la jeunesse sont indispensables pour susciter l'amour, les sentiments, même si elle espère aussi que ensuite on peut dépasser cette simple attirance du paraître. Enfin, dans ce cas précis, évidemment, c'est un roman, donc ça n'est pas une généralité. Et je veux bien croire que quelquefois la beauté intérieure suffise, mais pas dans ce roman. Et dans ce roman, on est dans la chute. Vertigineuse à partir du moment où la révélation se fait.
Alors pour faire transition, peut-être, c'est que en lisant votre livre, ce qui m'est apparu avec beaucoup de puissance, c'est que la réalité de l'amour suppose une parole. Il faut parler l'amour, il faut parler le désir, si on veut l'éprouver. Hein, et si l'on veut risquer la possibilité de recevoir le désir de l'autre hein, et de voir son propre désir accueilli par l'autre, il faut parler les choses. Il y a donc une nature, un caractère performatif de l'amour. Hein. Il faut dire à l'autre « je t'aime » pour que celui-ci puisse nous ouvrir les bras.
Oui.
Bon. Simplement, cette nécessité de parler expose la personne qui parle aux limites de la folie, dans la mesure où je trouve, et j'ai envie de vous entendre à ce propos, votre personnage est quand même dans une souffrance très grande et elle est suivie par un médecin.
Oui, c'est le début du roman. Elle est dans une clinique psychiatrique. Et elle est par moments dans une forme de délire qui a été provoquée par la très grande souffrance d'abandon où elle s'est trouvée. J'ai pensé à ce que dit Lacan, enfin une des phrases de Lacan sur le rapport justement entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'un homme pour une femme ? Son ravage. Et là, c'est exactement cela. Tout à l'heure, vous avez parlé de la guerre des sexes. Moi, ce n'est pas une expression que j'aime beaucoup. Enfin, ce n'est pas celle que j'emploierais pour ce roman, parce que je n'ai pas du tout voulu montrer la guerre des sexes, mais plutôt, là encore, pour citer Lacan, le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire que... Ça ne marche pas, au fond, là, entre cet homme et cette femme. Et le ravage se fait dans le sens de l'homme vers la femme, parce qu'il n'y a pas d'entente, même s'il peut y avoir de façon ponctuelle... un rapport sexuel au sens... Bon, parce qu'évidemment, Lacan joue sur le mot. Il y a un rapport sexuel, mais il n'y a pas de rapport entre les sexes.
Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Lacan dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de rapport sexuel pour les sujets parlants.
Hein, voilà.
C'est oui. Une chose oui. Vraiment importante. Il m'a semblé aussi... Si je m'égare, ce n'est pas grave du tout... Il m'a semblé qu'affleurait dans votre roman toute une série d'allusions à Marguerite Duras.
Oui. Oui, elle était très présente, oui.
Il me semble.
Elle est toujours très présente, pendant l'écriture de ce roman, elle était particulièrement présente. Oui.
Voilà, et il me semble, j'ai envie de vous demander de réagir à ce que Duras disait de Moderato Cantabile, dans l'entretien que tout le monde connaît, qu'avait accordé à Xavier Gautier. Elle disait « Les parleuses » en 1974. Et Duras disait « Une fois, j'ai eu une histoire d'amour, et je pense que c'est là que ça a commencé. J'ai traversé une crise qui était, point de suspension, suicidaire. C'est-à-dire que ce que je raconte dans Moderato Cantabile, cette femme qui veut être tuée, je l'ai vécue. » Et à partir de là, les livres ont changé. Bon, être aimé, c'est vraiment explorer les confins de la folie et de la mort.
Oui, cette femme qui veut être tuée, c'est exactement le moment où se trouve le personnage au début du livre, puisqu'elle dit même à un moment, en chacun de nous, il n'y a que deux personnes intéressantes, celle qui veut tuer et celle qui veut mourir. Et elle a les deux en elle, en effet, celle qui veut tuer, c'est-à-dire celle qui veut dominer, celle qui veut prendre le contrôle de l'autre, qui est aussi une des dominantes de l'amour. Et puis celle qui veut mourir, et là où elle est dans cette clinique, elle est aussi celle qui veut mourir parce que cet homme lui a dit « va mourir » et qu'elle l'a entendu de manière littérale, pas seulement comme de façon triviale, on peut dire « va mourir, dégage, va-t'en », mais « va mourir, ta vie n'a plus de sens, ne compte pas, tu n'existes pas, on n'a pas besoin de ta vie ». Et il y a cette double... tendance et tentation en elle de la mélancolie la plus grande, la mélancolie destructrice, mortelle, et puis une énergie vitale qui est aussi très présente dans toute cette première partie, quand c'est elle qui parle, et c'est ça, je l'ai vraiment voulu. Elle ne se présente pas comme une victime, c'est pas du tout un récit victimaire de ce qu'elle a vécu, mais du fond de cette mélancolie, il reste le désir de vivre, et elle est dans cette tension entre les deux, entre se laisser tomber puisqu'elle a été abandonnée et puis renaître, revivre.
Alors, ce personnage est en miroir avec une autre femme qui, elle, écrit.
Oui.
Il y avait une intention, parce que là, ce n'est pas du tout le hasard. Votre livre est architecturé, il est construit, il est élaboré. 48, 24, 36... Je ne crois pas au hasard.
Oui. C'est les chiffres et les lettres. Oui.
Exactement. Bon, donc, je ne dirais pas ce dédoublement, mais ce dispositif en miroir. Quelles étaient vos intentions ?
Il y a donc trois voix, comme vous l'avez dit, trois voix principales dans le roman. Celle de Claire Millecam au début, ensuite celle de son psy, psychiatre, psychanalyste, on ne sait pas trop, Marc. Et puis ensuite, il y a la voix de Camille. Alors je vous accorde que ce n'est pas un hasard si elle s'appelle Camille. Camille, d'ailleurs, l'anagramme de Millecam, qui est le nom de Claire, le nom de famille de Claire. Donc tout cela est absolument volontaire. Et pourquoi est-ce que j'ai fait cela ? Parce que pour moi, c'est d'abord un roman sur le roman. C'est-à-dire un roman sur la façon dont on écrit, enfin en tout cas dont moi j'écris mes romans, et particulièrement celui-là. Et donc, on a une première partie qui comprend le monologue, si on peut dire, de Claire Millecam et l'audition du médecin qui parle à ses confrères. Et cette première partie s'appelle « Va mourir ». Et cette première partie constitue le roman que Camille, dans cette deuxième partie où elle s'adresse à son éditeur, c'est le roman qu'elle a écrit et qu'elle a montré à son éditeur, qui d'ailleurs proteste parce qu'il n'aime pas du tout ce titre, « Va mourir ». Et elle explique, et puis il est un petit peu inquiet, parce que comme cette Camille a l'habitude de beaucoup utiliser la vie de ses proches et de son entourage, et de beaucoup travailler sur ce qu'il est convenu d'appeler l'autofiction, il s'est un petit peu inquiété et donc elle va lui expliquer comment elle a écrit ce roman que donc nous venons de lire et que je viens d'écrire. Et donc lui expliquant cela, elle est amenée à dire quelle est la part fictive et quelle est la part vraiment autobiographique, sachant que tout cela fait toujours partie du roman et que donc nous sommes toujours dans de la fiction.
Oui, alors j'ai envie de saisir le fil ludique, quitte à être rabroué. Votre première partie, c'est « Va mourir ». Je crois que vous aviez songé à donner ce titre au roman.
Oui.
« Va mourir ». La seconde partie, c'est une histoire personnelle. Va mourir, une histoire personnelle.
Oui, oui, oui. Mais je me suis amusée aussi beaucoup avec ça, avec les titres. Enfin, je ne me suis pas amusée toujours parce que j'avais en effet prévu d'appeler l'ensemble du roman Va mourir. Et quand j'ai donné, alors mon éditeur là, dans la vraie vie, hein, in real life, mon éditeur chez Gallimard, il m'a dit « Non, mais ça, ce titre, Va mourir, c'est absolument pas possible, c'est trop agressif. » Il m'a même dit « Le lecteur va prendre ce titre pour lui. » Ce que je trouve un peu excessif. Enfin, moi, personnellement, quand je déambule dans une librairie, je ne prends pas tous les titres pour moi. Donc je me suis rendue à ses raisons, et d'ailleurs à celles de beaucoup de mes amis. J'ai fait un sondage autour de moi et Bon, la majorité n'aimait pas ce titre. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai rajouté ça vraiment dans les épreuves, au moment de corriger les épreuves, j'ai rajouté dans la partie où Camille s'adresse à son éditeur Louis, j'ai rajouté un commentaire sur ce titre dont il ne voulait pas. Et j'ai rajouté aussi en exergue à la première partie une phrase, une citation de Corneille, de Polyeucte de Corneille, parce que c'est mon éditeur chez Gallimard, m'avait dit, oui, il va mourir. Bon, d'une part, c'est trop agressif, et puis d'autre part, c'est du parler racaille, caillera même. C'est-à-dire, va mourir, c'est voilà, on dit ça. Il m'avait dit, ça correspond pas du tout à votre image. Et de plus, dans 10 ans, plus personne ne connaîtra cette expression, et donc ce titre sera bizarre. Et donc, comme dans Polyeucte de Corneille, nous trouvons cette phrase « Va, cruel, va mourir, tu ne m'aimas jamais », je me suis dit que ça ferait une excellente exergue pour dire que va mourir a quand même quelques siècles déjà. Même si ce n'est pas exactement dans le même sens que ça se trouve dans cette phrase. Voilà, donc...
Bien que les jeunes de cité passant par l'école de la République ont des lettres.
oui, certes. Mais... Donc vous voyez que jusqu'au dernier moment, j'ai rajouté des éléments de la vraie vie dans le roman.
Alors vous m'incitez non pas à tourner le dos au roman, mais à vous interroger sur l'écriture et sur la façon dont vous avez peut-être conçu ce livre, si vous désirez, si vous avez envie de procéder à quelques révélations. Bon, vous avez... Vous avez créé un fake.
Ah ça. Écoutez, un écrivain doit tester un petit peu le réel. Alors j'ai créé un fake, oui effectivement, mais j'ai surtout beaucoup discuté avec plusieurs de mes amis qui, de façon tout à fait ouverte, évoquent le fait qu'ils ont plusieurs fakes. Ils en ont plusieurs sur Facebook. Et donc, selon l'humeur, selon le moment, surtout des hommes, je dois dire. Bon, il y a sûrement des femmes aussi, la preuve. Mais discutent avec différentes personnes sous différentes identités. Alors moi, je l'ai fait, mais de manière... disons, en dilettante, uniquement pour les besoins du roman.
Nous n'en doutons pas.
Et je ne vous dirai pas le nom de mon fake.
Je ne vous poserai pas cette question.
D'ailleurs, je l'ai enlevé. Il n'est plus sur Facebook.
Mais alors, continuons dans cette conversation sérieuse. Mais comment cette idée vous est venue ?
Comment cette idée m'est venue ? Elle m'est venue... En réfléchissant sur la pratique d'Internet et sur la modification que cela opérait sur les rapports amoureux, parce que c'est une question qui m'intéresse, comme vous savez, et je me disais qu'est-ce qui change dans le fait de communiquer d'abord de façon virtuelle. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce qu'au fond ça ne change pas grand-chose? Et je pensais à d'autres moyens de communication, parce que parfois on me dit mais oui, dans les romans, c'est dommage de parler du contemporain, parce que du coup, il n'y a pas de dimension universelle. Alors pour moi, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on parle de quelque chose de très particulier qui peut-être dans 20 ans sera totalement tombé en désuétude, ce Facebook, on ne sait pas quel va être l'avenir de Facebook, mais ça serait un petit peu comme de dire que, enfin, évidemment, toute proportion étant égale, comme de dire que Proust n'aurait pas dû parler du téléphone et des communication téléphonique, avec l'angoisse que ça coupe, puisqu'il y avait l'intermédiaire des standardistes qu'il appelle donc les demoiselles du téléphone. Et en même temps, pour nous, maintenant, c'est extraordinaire d'avoir, de savoir comment on communiquait, je pense aussi à la voix humaine de Cocteau plus tard. Mais, et je me disais, bon, ben. Il faut témoigner aussi de cela, de ce que c'est que le virtuel pour nous dans notre existence quotidienne, tout en sachant que ça n'a finalement pas tellement de différence entre Marivaux dont on parlait et puis les réseaux sociaux.
Alors, si vous m'accordez une remarque, je m'interdirais. Pas par politesse, mais je m'interdirais de dire que l'œuvre que vous êtes en train d'élaborer et de construire participe d'un souci réaliste, documentaire. Bon, réalisme, je ne sais pas, mais alors ce serait un nouveau réalisme.
Oui. Hein,
mais vraiment pas.
Vous n'avez pas une écriture. Je ne crois pas du tout être dans un
voilà,
naturalisme.
Exactement. 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 Et il me semble que celle que vous croyez fait d'une manière très intéressante écho à des livres antérieurs, et notamment à « Dans ces bras-là ». Il y a une intertextualité interne très forte. Hein, oui. Et je pense que du point de vue de l'écriture et de la littérature, c'est important de le dire, que ce n'est pas simplement... Vous n'avez pas seulement eu le souci de nous entretenir de l'amour aujourd'hui, au temps des réseaux sociaux. Vous êtes véritablement dans une démarche d'écrivaine, et ce livre-là est en dialogue avec... des livres de vous que vous avez écrits à la charnière du XXe et du XXIe siècle.
Oui, bien sûr. Non, ce n'est pas du tout un livre sur Facebook. C'est-à-dire qu'il se trouve que c'est un outil, une machine à fantasmes, à projections imaginaires. Donc c'est fascinant. Je pense d'une manière générale, c'est assez fascinant. Et c'est fascinant encore plus pour un écrivain. Parce que ce sont des machines à fiction. Chacun de nous sur Internet est un romancier en puissance, peut inventer sa propre vie, créer son personnage, raconter une histoire qu'il invente. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté de cela, mais par ailleurs, en effet... Il y a d'autres livres, des romans précédents.
Est-ce que c'est forcer le trait ou est-ce que c'est trop forcer le trait que de dire, quand on vous lit de livre en livre, on peut arriver à une sorte d'équation. On parlait de rapport tout à l'heure. Hein, on va être dans on va s'installer dans la polysémie, une sorte d'équation. Aimer, c'est écrire. Écrire et aimer, c'est tutoyer la folie.
Oui. En tout cas, le rapport entre l'amour et l'écriture, entre le désir comme énergie vitale et l'écriture, je crois que ça, c'est le fil directeur qui court dans tous mes romans depuis un bon moment, peut-être même depuis le début, même si mes premiers romans étaient beaucoup plus... classique, enfin, c'était moins des histoires personnelles, pour reprendre le titre. Je ne sais plus ce que je voulais dire.
Si vous me permettez, ce n'était pas de ma part la volonté d'exprimer un bon mot. Votre personnage, Marc, le médecin, vous lui faites dire ceci. Les fous et les amoureux appartiennent à la même espèce. D'ailleurs, on dit amoureux fous. Et il ajoute, leur vie est un palimpseste. Et un peu plus loin, elle est peut-être folle, après tout, au sens où nous l'entendons, sûrement. Mais ce sont les fous qui nous soignent, non ?
Oui, mais je voulais interroger cette question de la folie ou du délire qu'est là par moment, enfin surtout au tout début, les premières pages. C'est une forme de délire sur l'existence, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais la folie de cette femme est une leçon aussi. Je pense que les fous nous apprennent vraiment quelque chose, parce que les fous... sont des gens qui n'ont pas de filtre par rapport à la réalité. Donc, ils prennent de plein fouet, de manière très, très violente, la brutalité, la cruauté, toute la violence du réel. Alors que nous avons différents filtres, différents écrans, voiles, enfin tout ce qui permet de tempérer. Et voilà, j'avais envie de faire entendre cette femme de manière très, très crue, très, très libre et aussi excessive et
peut-être
parfois justement au bord de la folie par rapport à une norme, mais tout est relatif.
Parce que peut-être que écrire, c'est inscrire le vivant sur le corps.
Oui, en même temps, écrire, c'est ce qui permet d'échapper à la folie, justement, à la folie complète. Hein. Mais c'est toujours, pour moi, c'est toujours une écriture du corps aussi. Je fais pas de trop de il n'y a pas d'un côté l'écriture comme exercice cérébral et puis de l'autre côté le corps désirant le corps érotique c'est le même corps. C'est pour ça d'ailleurs que à un moment je parle de la polysémie du mot langue. La langue comme organe qu'on a dans la bouche qui sert à parler, qui sert à embrasser, qui sert dans les jeux érotiques, et la langue par laquelle nous nous exprimons, nous communiquons, pour moi, c'est vraiment, évidemment, c'est le même mot, mais c'est la même réalité.
D'ailleurs, l'un de vos livres précédents, c'est Tissé pour mille.
Oui. C'est tissé par mille.
Tissé
par mille, c'est le. Oui, j'avais repris ce titre de Mallarmé. C'est extrait d'une citation de Mallarmé à propos de l'écriture, justement, qu'il définit ainsi. Je crois que je vais retrouver la citation. Ce pli de sombre dentelle qui retient l'infini, tissé par mille. Donc, tissé par mille, c'est à la fois tissé par nous tous, puisque nous sommes tous les artisans, les ouvriers, les utilisateurs de la langue. Et puis, c'est aussi tissé par mille ans, par mille personnes, par mille siècles, par tout est... C'est ce tissu de la langue et ce tissu de la langue écrite, puisque tissu, texte et textile, c'est la même origine. Ce tissu, c'est quelque chose de très concret. D'ailleurs, il y a un autre de mes livres qui s'appelle sur les mots, qui s'appelle Le grain des mots, parce que je voulais faire le rapport entre le grain des mots et le grain de la peau, le grain de la voix, le grain de folie. Tout cela est complètement lié. C'est très... les mots, c'est de la chair. Les mots sont vivants.
Alors cela m'intéresse beaucoup parce que vous évoquiez tout à l'heure, en nous faisant sourire, que peut-être vous aviez créé un fake, que vous êtes un petit peu documenté, etc. Mais il me semble que je vous connais... tout juste, je vous connais mal, mais il me semble que votre documentation, elle passe par la bibliothèque, elle passe par l'écriture des autres, et je voudrais que vous me confirmiez l'impression que j'ai. Je crois que vous êtes de ces écrivains, de ces écrivaines qui sont très sensibles aux formules, aux mots, aux phrases, et que souvent vous en relevez, vous demandez aux personnes qui les prononcent ou qui les citent les références exactes. Je suppose que ensuite vous allez les vérifier, vous réfléchissez à cela. Il y a ce souci du mot des autres.
Oui, mais en effet, alors, d'une part, les mots des autres dans la littérature que j'ai pu découvrir et que j'ai retenu parce que J'ai une mémoire, sinon précise, des textes ou des extraits de textes, au moins de l'endroit où je vais pouvoir retrouver telle phrase que j'ai en tête. Donc je vais chercher. C'est-à-dire pour ça que j'aime bien écrire chez moi, parce que chez moi, j'ai ma bibliothèque et je peux circuler, aller voir, vérifier. Internet, c'est formidable aussi pour ça. Hein, parce que quand vous avez une phrase qui vous revient en mémoire, vous la tapez et vous avez 9 chances sur 10 de la retrouver. C'est quand même formidable. Et puis, oui, alors c'est quelque chose qui parfois m'est opposé comme un défaut ou une faiblesse, cette abondance de références et de citations. Et ce que je réponds, pour ma défense, si je dois me défendre, c'est que la référence littéraire, ou la citation, ou ce qui a été dit, d'ailleurs pas forcément dans la littérature, mais quelque chose que j'ai pu entendre, ça fait partie de ma mémoire et donc de mon être, exactement comme un autre souvenir. Je peux me souvenir, quand j'écris, de tel arbre dans le jardin quand j'étais petite, ou de la tête de mon chien, ou n'importe quel souvenir que j'aurais pu garder en mémoire, eh bien, les mots, les phrases, les vers de tel poème sont des souvenirs comme les autres, si je puis dire. Et donc, je les incorpore, au sens strict, je les incorpore à mon écriture. Et aussi, quelquefois, ils me viennent, je pense à Marguerite Duras, je veux dire quelque chose et je me souviens que Marguerite Duras en a parlé, alors je vais vérifier, je vais relire tel ou tel passage, et je me dis, elle l'a tellement bien dit, elle l'a tellement bien exprimé, que plutôt que d'en faire une vague réplique moins bonne, eh bien, je vais la citer. Et je vais rebondir là-dessus, je vais essayer de moi-même, à partir de... C'est une démarche presque philosophique, c'est-à-dire à partir de ce matériau qu'est la pensée incluse dans la phrase, eh bien moi, je tisse mon propre texte, mais à partir de cette source.
Je voudrais, si vous en êtes d'accord, que nous puissions creuser cet aspect des choses. Est-il exagéré de poser que certaines de ces phrases qui attirent votre attention, que vous relevez, que vous notez, je vous ai vu noter, qu'elle parle, oui. Etc. Bon, que ces phrases fonctionnent comme des sortes de phrases d'éveil.
Complètement, ah, oui. Oui, c'est exactement ça. Et ça met en marche ma réflexion, ma pensée, mes émotions aussi. Il y a des phrases, d'un coup, qui me soulèvent ou qui m'interpellent. Il y a des phrases que je note aussi parce que je ne suis pas d'accord, parce que je veux y réfléchir, parce que ça contredit ce que je pense moi-même. Mais ma vie est faite de langage et je suis extrêmement sensible, mais même dans la vie privée, dans la vie courante. Je fais très attention à ce que dit l'autre. Je pense que c'est mon attention est beaucoup. Enfin, c'est pas qu'elle est auditive plus que visuelle ou voilà. Je pense que je sais pas si je serais une très bonne cinéaste. Je fais pas très attention. D'ailleurs, il y a assez peu de détails sur l'apparence physique ou les couleurs ou le décor. Mais en revanche, je fais très très attention à ce que j'entends, à ce que j'écoute. Enfin, je pense que c'est aussi ça qui m'intéresse beaucoup dans la psychanalyse, c'est l'écoute. Et donc j'écoute le monde. Oui, ça je crois que c'est... Et ça me fait... Ça me fait carburer, si on peut dire.
Alors, nous n'avons absolument pas préparé cette partie de notre entretien, mais j'ai envie de vous faire part de mes préoccupations, pour, non pas parce qu'elles importent, elles n'importent pas, mais pour connaître votre point de vue. Je suis de celles et de ceux qui pensent que la langue de l'écrivain, c'est toujours une langue étrangère, une langue qu'on invente à l'intérieur de sa langue maternelle, et que la langue de l'écrivain, il convient de la pousser jusqu'à ses limites, l'en dehors de la langue. Et cet en dehors de la langue a deux versants, c'est la musique et la peinture. Si ces phrases qui vous touchent, si ces phrases qui vous interpellent fonctionnent parfois comme des phrases d'éveil, vous seriez peut-être de ces écrivains, de ces écrivaines qui sont plutôt du côté de la musique, plutôt de l'audition, mais pas au sens courant du terme, mais plutôt du côté de la musique, de la musique du monde, plutôt que d'une démarche scopique, d'une démarche de vision.
C'est certain. Oui. Ah oui, c'est certain. Et d'ailleurs, la phrase ne m'intéresse pas seulement par son sens ou ses différents sens, mais par sa mélodie, peut-être même avant tout. Enfin, je ne sépare pas, à vrai dire. Mais quand j'écris, je me relis à voix haute et je suis sensible au jeu des sonorités, au rythme des phrases.
Vous pratiquez le gaulois.
Ah oui, oui, alors vraiment, oui, ça depuis toujours. Ça, c'est... Je me relis sans arrêt à voix haute ou en tout cas dans une sorte de ça peut être un gueuloir intérieur si mais j'écoute ce que j'écris à l'oreille, oui, absolument.
Et évidemment, il ne s'agit pas de généraliser, hein, il ne s'agit pas d'être péremptoire, mais c'est davantage donc des phrases qui vous viennent, vous allez sourire, cogner à la vitre, sont plutôt des phrases et non pas des images au sens d'image iconique. Ou moins, plus rarement peut-être.
Plus rarement, oui, plus rarement. J'ai besoin de me représenter la scène en même temps. C'est parfois très cinématographique. Il y a certaines scènes de mes romans, je crois, qui sont assez visuelles, mais visuelles, pas dans le détail. J'ai besoin de voir la position, la posture des personnages ou... Mais en fait, je les entends, j'entends leur voix, j'entends la façon dont ils parlent. Donc j'essaie, par exemple, dans ce roman, comme ce sont des personnages différents qui à chaque fois prennent la parole, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient différents, différenciés en fonction de leur parole, de leur façon de parler. Sans pour autant tomber dans le travers naturaliste. Ils ne parlent pas comme s'ils les avaient enregistrés au magnétophone non plus. Mais
ma voix n'a pas d'autorité, mais mon impression de lecteur a été que vos trois voix sont différenciées.
Oui, ben, tant mieux.
Cela me paraît indubitable, oui. Et on peut analyser l'écriture de ces trois voix et tendre à une démonstration, il y a trois voies spécifiques, singulières.
Oui, mais je vous remercie. C'est aussi une question de rythme. J'avais mis en exergue un autre de mes romans, Romance nerveuse, une autre citation du même Mallarmé, que Tissé par mille, c'était déjà Mallarmé. Et pour Romance nerveuse, j'avais mis en exergue « Toute âme est un nœud rythmique ». Et je pense vraiment très souvent à cette phrase dans la création de mes personnages. Alors, le mot « âme » est un mot un petit peu désuet, mais ce qui les anime, hein, c'est ça l'origine du mot, ce qui anime une personne, un personnage, en l'occurrence, c'est le nœud rythmique. Donc, il faut pouvoir faire saisir au lecteur ce nœud rythmique qu'est chacun des personnages, son propre rythme intérieur, mais aussi son phrasé, ses élans, ses réserves. Enfin, c'est quelque chose qui me passionne parce que ça me passionne chez les gens que je connais. Et même ceux que je ne connais pas, parce que moi, je peux vraiment... Je fais partie de ces écrivains qui peuvent rater leur station de métro parce qu'ils sont en train d'écouter leurs voisins qui sont en train de discuter, de raconter. J'écoute. C'est ça, c'est vrai. C'est pas très discret, mais...
Enfin, je ne sais pas, je joue le Candide, hein, c'est mon rôle de jouer le Candide, mais en se sentant écouté, on ne craint pas de se, entre guillemets, retrouver dans votre prochain roman. Ce n'est pas une crainte que l'on a. Avec d'autres écrivains, parfois, on peut le redouter, mais avec vous, non. Permettez-moi, alors, une question qui va peut-être vous faire sortir de vos gonds, mais pourquoi écrivez-vous ? Pourquoi écrire ?
C'est difficile comme question. Je ne me fais pas sortir de mes gonds. Il en faut beaucoup pour me faire sortir de mes gonds.
Je ne cherche absolument pas à vous faire sortir de vos gonds. Mais alors peut-être juste pour étayer ma question. Dans votre roman, on peut lire ceci. Claire, votre personnage, prend plaisir à participer à un atelier d'écriture qui est animé par Camille.
Oui.
Et on peut lire ceci. D'abord, écrire me manquait. Alors vous allez sourire. Je ne parle pas d'écriture universitaire, des articles pour des colloques.
C'est bon. Vous qui souriez.
Non, non, je ne sais pas. Bon. Cette écriture ne manquait pas à votre personnage. Bon, très bien. Mais quelques lignes plus bas. Écrire pour dire son expérience, ses rêves, écrire pour dire son désir, l'attraper dans le filet des mots comme un poisson gigotant. C'est pour ça que vous écrivez ?
Oui, oui, j'aime bien cette métaphore de la pêche, parce que je me vis un petit peu comme ça. Pas comme un chasseur, parce que c'est trop... C'est trop violent et puis c'est trop en mouvement. Mais comme un pêcheur, le pêcheur à la ligne, qui attend, mais d'une attente active. Et j'éprouve l'écriture comme une attente de quelque chose qui va venir, qui ne sera pas exactement... ce qu'on attend, c'est l'objet du désir. Et le roman, une fois fini, ou quel que soit le livre que j'écris, ça n'est jamais exactement la prise idéale. Mais tout de même, j'essaie de faire en sorte que ce soit quand même un beau poisson. Oui, mais c'est vrai, à chacun de mes livres, je me dis, bon, il faut que ça soit un beau poisson, que je sois contente. Peut-être pas la photo avec le poisson là, qui pèse...
Le trophée.
Oui, le trophée. Mais bah, ça, c'est toujours pour le suivant. Toujours il y aura encore un plus beau poisson après. Mais c'est ça. Il y a une forme de... C'est assez contemplatif pour moi. Hein, je parle pour moi. C'est un exercice assez contemplatif, solitaire, assez silencieux aussi. Parce que les pêcheurs n'aiment pas être dérangés. C'est aussi sur le motif, comme les peintres, là, on est dans la nature, et moi, je suis dans mon élément qui est la langue, et j'attends que ça morde. Alors, je cherche un peu, hein, donc je vais chercher le bon coin, le coin à truite. Mais oui, cette métaphore me convient assez bien. Et c'est le poisson gigotant, oui. C'est pas le poisson mort.
Le vif argent.
Voilà, le vif argent. Donc c'est entre attraper et manquer. Et je pense que l'écriture, c'est ça. C'est toujours entre saisir et rater. Parce que c'est jamais exactement ça, mais on s'en approche.
Comme on s'approche du réel.
Voilà, exactement.
Sans le saisir.
Oui, voilà.
Et donc peut-être les phrases qui vous touchent, qui attirent votre attention. Tout à l'heure, vous et moi, nous les avions qualifiées de phrases d'éveil. Peut-être qu'un livre, c'est aussi un précipité du désir.
Ah oui, bien sûr. Oui, mais c'est pour ça que j'écris.
Mais alors, avec l'idée que c'est un précipité, mais c'est un précipité qui, nécessairement, il lui manque quelque chose.
Oui, voilà.
Donc du coup, ce sera l'une de mes dernières questions. Peut-être qu'une fois le livre achevé, devenu un volume, devenu un objet, un livre qu'on défend, comme vous le faites aujourd'hui, seriez-vous de ces écrivains, de ces écrivaines qui angoissent en pensant au prochain ?
Non, pas du tout. Ah non, 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 moi je n'ai pas du tout de... Enfin, je veux dire, pendant que j'écris, enfin dans les phases préparatoires même, où je n'écris pas, mais où je réfléchis au livre, qu'est-ce qui peut prendre très très longtemps, j'ai des angoisses par les jours où je n'arrive à rien, où ça ne mord pas, ça arrive, hein, c'est même fréquent, où je suis bredouille, où... mais je n'ai pas d'angoisse... Quant à l'avenir, c'est-à-dire que quand j'ai vraiment une idée de roman, puis avec ça, ça vient aussi avec l'expérience, parce que j'ai une vingtaine de livres derrière moi, c'est mon 9e roman, donc l'expérience m'a appris que je vais y arriver, mais je sais pas au bout de combien de temps. Donc j'ai des angoisses ponctuelles, mais j'ai pas d'angoisse au sens où je me dirais c'est fini, la page blanche maintenant, t'as plus rien à écrire. Non, pas du tout, parce que c'est pas de l'ordre, l'écriture, c'est pas du tout de l'ordre du sujet. C'est pas qu'est-ce que je vais écrire dans mon prochain roman. Ça c'est pas du tout cette question-là. Vraiment, c'est pas du tout une question pour moi. C'est est-ce que je vais réussir. À attraper un beau poisson. Mais je me dis qu'en persévérant, je vais y arriver. Non, je ne suis pas inquiète.
Alors, justement, j'ai envie de saisir le poisson, ou du moins essayer de le saisir. Dans l'écriture, certains de vos titres incitent à penser que vous pratiquez l'écriture comme une reprise. Vous avez écrit « Romance », et puis, quelques années plus tard, Romance nerveuse. Mmh. Vous avez, je crois, acquiescé quand je remarquais tout à l'heure que dans ces bras-là, et puis celle que vous croyez, dialogue. Mmh. Écrire, c'est reprendre ce qui a été écrit par soi ou par les autres.
Hein. Oui, mais j'ai écrit tout un essai sur le thème de la répétition, hein, un essai qui s'appelle « Encore et jamais », parce que je pense que c'est une figure... de rhétorique, mais pas seulement, c'est une figure fondamentale de notre existence. Nous sommes faits de répétitions, et le texte, la langue est faite de répétitions, les mots reviennent, les souvenirs reviennent, et d'une certaine manière, je peux dire que je ne suis pas la première à le dire, qu'on écrit toujours le même livre. Enfin, j'ai l'impression que c'est juste sur des variations, en fait. D'un livre à l'autre, ce sont des variations. C'est d'ailleurs le sous-titre de mon essai, « Encore et jamais, variations ». Ce sont des variations aussi d'ordre musical, comme une fugue. Enfin, c'est aussi des points contre points. Oui, les choses se répondent.
Bach.
Voilà. Oh, ben, oui, ça, c'est... C'est mon Dieu.
Bon. Alors peut-être, si vous en êtes d'accord, vous pourriez nous lire un passage de votre livre.
Oui, plaisir. Alors je vous lis le début de la deuxième partie, une histoire personnelle. C'est donc « Brouillon de lettres à Louis O », qui est l'éditeur de Camille. Mon cher Louis, pardon pour cette lettre manuscrite, je n'ai pas d'ordinateur en ce moment, j'espère que tu pourras me lire. Ton message m'a fait de la peine. Que tu n'aimes pas mon titre, je peux le comprendre, même si je ne suis pas d'accord. Va mourir. Tu trouves ça trop agressif en couverture, trop racaille. Même si j'ajoute en épigraphe un alexandrin de Corneille? C'est comme si je m'adressais au lecteur, dis-tu, comme si mon injonction le rejetait d'emblée. Bon, je ne crois pas que le lecteur prenne les titres pour lui, pas du tout. Moi, en tout cas, ça ne me vient jamais à l'idée. Mais admettons, d'un point de vue commercial, tu as peut-être raison, je ne sais pas, on en rediscutera, ce n'est pas le plus important. Le reste me préoccupe bien davantage. Ce que tu m'écris après, sur le fond. Que vu la conjoncture dans l'édition ces dernières années, il vaut mieux être prudent. Toutes ces questions que tu te poses... Tu es comme les autres alors. Tu as peur. Tu n'as pas envie d'avoir de problème. Tu penses aux romans dont les auteurs ont été condamnés ces temps-ci et leurs éditeurs avec. Tu as perdu 2 procès toi-même. Chat échaudé craint l'eau froide, dis-tu. D'abord, je te rappelle que tu en as gagné aussi. La littérature triomphe parfois. que les faits racontés aient été vécus par l'auteur n'ôtent rien à la dimension esthétique de l'œuvre. Ça ne te rassure pas ? Surtout, je suis triste que mon éditeur, mon ami, ne me fasse pas davantage confiance. Comment peux-tu croire, toi, Louis, qu'il n'y ait aucune distance entre la fiction et la réalité ? Ou pire, que j'ai volé cette histoire à quelqu'un, vampirisé sa vie. Tu ne sais pas ce que c'est qu'écrire ? Tu es éditeur depuis 50 ans et tu ne comprends pas les écrivains. Il y a 20 ans qu'on est amis, tu as lu tous mes livres et tu veux faire relire « Va mourir » par un avocat. Tu crains que quelqu'un s'y reconnaisse, c'est ça. Nous sommes copropriétaires de nos vies et ça t'inquiète. Tu te demandes jusqu'où vont les parties communes. Tu t'imagines sans doute que lors d'une résidence en HP pour un atelier d'écriture, j'ai pompé l'expérience tragique d'une de mes pensionnaires. C'est ça ? Tu te méfies de moi. Tu penses que je n'ai aucune éthique.
Merci.
Merci.
En votre nom à toutes et à tous, je remercie vivement Camille Laurence de nous avoir accordé un peu de son temps. Merci Camille.
Merci à vous.